ma vie à Sibiu. Mais pour moi, Sibiu, pourquoi cette ville est importante? Parce que c'est là que j'ai subi le grand drame de ma vie, n'est-ce pas, qui a duré plusieurs années, et qui m'a marqué. Alors, pour le reste, tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai élaboré, toutes mes divagations, trouvent leur origine dans ce drame. À peu près à 20 ans, j'ai perdu le sommeil. Et ça, je considère que c'est le plus grand drame qui puisse arriver dans une existence. Ce n'est pas du tout d'être en prison, je vois tout ça, ça ne me semble rien, à côté de ce drame qui était le mien, n'est-ce pas, qui a duré très longtemps. Pour moi, c'est les nuits de Sibiu, par exemple. C'est les moments les plus extraordinaires de ma vie. Je sortais vers minuit, vers une heure, et je me promenais dans les rues. Et il n'y avait que quelques putains et moi. Dans une ville, c'est le silence total, la province, etc. Et pendant des heures, je me promenais dans les rues, et comme une sorte de fantôme. Et tout ce que j'ai pensé, tout a été élaboré, si vous voulez, pendant ces nuits. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit mon premier livre, qui est en roumain, qui s'appelle Pecul mi disperi, et sur les signes de désespoir. C'est un livre que j'ai écrit à 22 ans, qui était une sorte de testament. Parce que je pensais qu'après, j'allais me suicider. Mais j'ai réussi à... J'ai survécu pour une raison très précise. C'est que je n'avais pas à pratiquer un métier. Parce que je ne pouvais pas. Et ça, c'est très important. Comme je ne dormais pas la nuit, comme je me promenais dans la ville, mais j'étais bon à rien. Pas la journée, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas pratiquer un métier. Je ne pouvais pas être professeur.
Chers auditeurs, bonjour, ou plutôt bonsoir, car c'est au cœur de vos insomnies que ce nouvel épisode des yeux ont des oreilles vous emmène, afin de faire vivre le jour au plus profond de vos nuits. Vous venez d'entendre l'extrait d'un entretien d'Émile Sioran avec Michaël Jacob, enregistré en 1989, dans lequel, à près de 80 ans, l'auteur roumain confiait être toujours habité par les insomnies qu'il avait cueillies dès le lycée. Nous devons à ces fécondes nuits sans sommeil une grande partie de son œuvre. Mais pour Sioran, ces nuits étaient une malédiction et même un drame obsessionnel qui l'a mené au nihilisme. Ainsi, pour certains, dont vous faites peut-être partie, l'insomnie est la hantise et la terreur de toute une vie. Elle est la solitude de celui qui se sait exclu du grand sommeil universel. Elle est le ressassement inlassable de pensées qui refusent de passer. Elle est le doute jeté sur la réalité. Elle est l'angoisse du repos impossible. Pour d'autres, l'insomnie est créatrice, synonyme d'une autre existence possible, d'une sorte de vie augmentée et paisible, loin du bruit et de la fureur journalière. Propulsés hors de nous-mêmes par cet état de transe, nous serions alors à même de découvrir un nouveau monde, peut-être plus vrai, plus brut que celui qui prend fin avec la lumière du jour. Pour vous, chers auditeurs, elle pourra être l'occasion d'écouter les voix de Valentin, Maë et Myriam ouvrir de magnifiques textes qui interrogent le sens de cette grande absence qu'est la nuit d'insomnie.
En 1920, Jorge Luis Borges écrit « Insomnie ». Très sujet à l'insomnie, Borges la décrit comme l'horreur d'être et de continuer à être, comme un enfer métaphysique dans lequel ce texte surréaliste nous plonge.
Légendairement petit et lointain est désormais ce moment où les horloges versèrent un minuit absolu. Ces six murs étroits, emplis d'une éternité étroite, me suffoquent. Et dans mon crâne vibre encore cette pitoyable flamme d'alcool qui ne veut pas s'éteindre, qui ne peut pas s'éteindre. Réduction à l'absurde du problème de l'immortalité de l'âme. Trop de couchants m'ont rendu exsangue. La fenêtre synthétise le geste solitaire de la lanterne, film cinématique plausible et parcheminé. La fenêtre aimante toutes les œillades inquiètes. Combien m'étranglent les cordes de l'horizon. Pleut-il? Quelle morphine ces aiguilles injecteront-elles aux rues? Non, ce sont de vagues lambeaux de siècles qui goûtent isochrone du plafond. C'est la lente litanie du sang. Ce sont les dents de l'obscurité qui rongent les murs. Sous les paupières, ondoient et s'éteignent à nouveau les tempêtes brisées. Les jours sont tous de papier bleu, minutieusement découpés par les mêmes ciseaux sur le trou inexistant du cosmos. Le souvenir allume une lampe. Une fois de plus, nous traînons avec nous cette rue si joyeusement pavoisée de linge tendu. Le piano luxuriant du toupie s'est évanoui au loin. Le soleil, ventilateur vertigineux, élague les demeures d'Hécati. En nous voyant tanguer, en temps de spirale, les portes rient aux éclats. Pedro Luis me confie. Je suis un homme bon, Georges. Tu es un homme bon, Georges. Ça nous passera, avec une petite tasse de café. Les yeux éclatent quand les frappent les pâles du soleil. Quel hangar abritera à jamais les émotions ? Il existe, à n'en pas douter, une dimension ultraspatiale où toutes sont des formes d'une force disponible et soumise, comme l'eau et l'électricité dans notre dimension. Colère, anarchisme, fin sexuelle, artifice pour nous faire vibrer sous la magie. Aucune pierre ne brise la nuit. Aucune main n'avive les cendres du bûcher de tous les étendards.
Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment toute la nuit, je finirai par comprendre qu'il faut que je m'endorme aussi. Avoir tant de ceux qui se ferment couchés dans un lit, je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. J'en ai connu des grands, des beaux, des bien bâtis, des gentils, qui venaient pour me bercer, combattre mes insomnies. Mais au matin, je les retrouvais endormis dans mon lit, pendant que je veillais seul en combattant mes insomnies. À force de compter les moutons qui sautent dans mon lit, j'ai un immense troupeau qui se promène dans mes nuits. Qu'ils aillent brouter ailleurs, par exemple dans mon prairie, labourage et pâturage ne sont pas mes travaux de nuit. Sans compter les absents qui me reviennent dans mes nuits, j'ai quelquefois des vivants qui me donnent des insomnies. Et je gravis mon calvaire sur les escaliers de la nuit. J'ai déjà connu l'enfer, connaîtrai-je le paradis? Le paradis, ce serait pour moi de m'endormir la nuit. Et je rêve que je rêve qu'on a tué mes insomnies. Et que pâle, en robe blanche, on les a couchés dans un lit. À tant rêver que j'en rêve, les revois dans mes insomnies. Je rôde comme les chats, je glisse comme un souris. Et de lui-même ne sait pas ce que je peux faire de mes nuits. Mourir ou s'endormir, ce n'est pas du tout la même chose. Pourtant, c'est pareillement se coucher les paupières closes. Une longue nuit où je les avais tous deux confondus. Peu s'en fallut au matin que je ne me réveille plus. Mais au ciel de mon lit, il y avait les pompiers de Paris. Au pied de mon lit, les adjudants de la gendarmerie. Oh, messieurs, dites-moi ce que vous faites là, je vous prie. Madame, nous sommes là pour veiller sur vos insomnies. En un cortège chagrin viennent mes parents, mes amis. Gravement, au nom du Père, du Fils et puis du Saint-Esprit. Si après l'heure, c'est plus l'heure avant, ça ne l'est pas non plus. Ce n'est pas l'heure, en tout cas, mes grands-mères, si d'être venues. Je les vois déjà rire de leur fine plaisanterie. Ceux qui prétendent connaître un remède à mes insomnies. Un médecin pour mes nuits, j'y avais pensé moi aussi. Mais c'est contre lui que je couche mes plus belles insomnies. Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment toute la nuit. J'aurais fini, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Mais si s'endormir, c'est mourir, je préfère mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que de dormir en paradis. Si s'endormir, c'est mourir, rendez-moi mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que de mourir en paradis.
Maintenant, passons à Coup de couteau de François Mauriac. L'œuvre débute par l'insomnie ordinaire d'un couple qui va mener à la révélation d'un secret des plus banals.
Au bruit du verrou et de la porte refermée, Elisabeth soupira d'aise. Maria était rentrée enfin. Les petits n'étaient plus seuls. Inutile de demeurer les yeux ouverts, aux écoutes d'une toux, d'un soupir, et de ces paroles confuses que balbutiaient les enfants endormis. Le sommeil pouvait venir. Elisabeth chercha l'endroit le plus frais du lit. L'extrême bord opposé à la ruelle, du côté de la fenêtre ouverte, qui éclairait le plancher de ce vêtement blanc sur un dossier de chaise. Mais trop de chaleur émanait du corps étendu près du sien. Elisabeth n'entendait pas lui respirer. Sans ce foyer vivant qui la brûlait, elle se fut même inquiétée d'un tel silence, car lui, dans le sommeil, avait coutume de respirer à larges intervalles et puissamment. Peut-être ne dormait-il pas ? Elle interrogea à voix basse. « Dors-tu ?» Nulle réponse. Il faudrait le décider à voir un médecin. Elisabeth n'aurait su donner les raisons de son inquiétude. Sans doute lui n'aimait-il plus son atelier comme autrefois. Ce matin, il avait renvoyé le modèle. Jamais il ne parut si détaché de son travail que cette année, où les marchands de tableaux, pourtant, l'avaient harcelé. Ses enfants le fatiguaient, et plus encore, ses camarades. « Avec moi, songeait Elisabeth, il est toujours le même. N'est-il pas toujours le même ? sans doute un peu d'accoutumance, comme pour chasser une mouche, elle secoua la tête, bannit une pensée importune. Minuit et demi déjà, et il faut que je sois levée demain à 7 heures pour la gymnastique de Jean. Une rumeur de trompe d'auto ne l'empêchait pas d'entendre sa montre, comme lorsqu'elle comptait les pulsations d'un enfant malade. Lui se retourna sans un soupir, s'étendit sur le dos, le drap moulé ce grand corps immobile tel qu'il reposerait un jour. Elisabeth songe que l'insomnie ne serait rien si elle ne nous livrait sans défense à la pensée de la mort. Non de sa mort, à elle, pauvre femme inutile à tous, sauf aux enfants, encore étaient-ils prêts de devenir des hommes, mais que lui pût n'être plus rien ce jour entre les jours futurs. Qu'une forme rigide et froide, cette vision l'oblige de serrer les dents. Quelle terreur de ne pas mourir avant lui. Pourtant, si elle s'en allait la première, une autre femme sans doute. Elisabeth secoua encore la tête, répéta à mi-voix, « Dormons, dormons ». Et comme pour conjurer une pensée funèbre, elle prit doucement dans sa main la main gisante de son mari. Ce n'était pas la main morte d'un homme qui dort. Elisabeth la sentit se refermer sur la sienne avec force, et en même temps, cette poitrine qui avait paru immobile se gonfla, s'abaissa, se souleva, lentement d'abord, puis sur un rythme précipité, et tout ce grand corps, soudain, frémit. « Louis, qu'as-tu ?» Elisabeth imagina d'abord le pire, crut à une attaque. Elle chercha la lampe sans pouvoir atteindre la prise de courant. Enfin, l'abat-jour d'étoffe concentra la lumière sur un verre d'eau à demi-plein. Mais le corps, en proie au mal inconnu, demeurait dans l'ombre. Elisabeth se pencha sur lui, posa d'un geste peureux la main sur ce visage tourné vers le mur et la retira mouillée. « Tu pleures, Louis ?» À genoux sur le lit stupéfaite, elle regardait cette poitrine haletante. Depuis 15 ans qu'elle était sa femme, avait-elle jamais vu Louis pleurer ? Pas même pendant la guerre, lorsque, à la fin d'une permission, il s'arrachait d'elle. Louis s'y pudique ce secret qu'il passait pour insensible. Elle-même s'en plaignait parfois. Elisabeth glissa son bras sous la tête pesante, la reçut au creux de son épaule, comme elle l'eût fait pour un de ses enfants malheureux, jusqu'à ce que, enfin, cet homme, dans sa 49e année, s'abandonna tout entier aux larmes. Elisabeth répétait « Qu'y a-t-il, mon petit ?» vaguement apaisé, parce qu'il ne s'agissait pas d'une maladie, mais d'un chagrin. Nul ne peut rien contre une maladie mortelle, mais il n'était pas un seul chagrin contre lequel Elisabeth se sentit démunie. Avec une angoisse attentive, elle observait le visage inconnu que les larmes prêtaient à cet homme. Un visage d'enfant, le visage d'un de ses enfants. D'instinct, les mots qui revenaient qu'elle eût trouvés pour Jean ou pour Raymond. « Pleure, pleure, tu parleras après. » Il put enfin balbutier. « Je suis idiot, chérie, ce n'est rien. J'ai honte, si tu savais. Je ne me méfiais pas. C'est la pression de ta main dans l'ombre. » Comme un plongeur qui revient à la surface, il aspira l'air. « Ça va mieux, il faut dormir, Babette, il faut que tu oublies, rien de grave, je te jure. » Elle protesta, tenant toujours sa tête contre son épaule. Croyait-il qu'elle pourrait dormir dans une telle incertitude ? « Je te le répète, rien de grave, à toi surtout, je ne peux rien dire. » Elisabeth savait que Louis désirait ardemment de se confier, qu'il retenait avec peine son secret au bord des lèvres. Elle ne doutait pas non plus que cette confidence fût redoutable, déjà tournée du côté d'où lui devait venir le coup, et répétant ce qu'elle avait coutume de dire à ces moments-là, « Tu sais bien qu'on peut tout me dire à moi. » Il se défendait faiblement. Elle l'avait surpris, disait-il, alors qu'il était sans armes, proie inerte de sa douleur. Mais déjà, ses paroles étaient un aveu. « Ce n'est rien, Babette. C'est trop violent pour durer. Tant de souffrances me rassurent. Il n'y a qu'à serrer les poings à attendre que ce soit fini. Écoute-lui. » Elle aurait voulu demander « Est-ce une femme que je connais ?» Mais elle se retint et elle le berçait. Il disait « Je me sens déjà mieux. » Je n'aurais jamais pensé que la douleur qui nous vient d'une créature pût être à ce degré physique. Je saurais dire où cela me fait mal. Tiens, ici. » Il prit la main d'Elisabeth, la pressa contre sa poitrine. « C'est là que j'ai mal. »
Depuis bientôt un mois et demi qu'elle s'est installée dans ma vie, il n'y a plus de place dans mes nuits pour le sommeil ou pour l'ennui. Elle s'endort sur mon épaule. J'ai dans les yeux ses boucles folles. Ça me fait bien loucher un peu, mais j'aime tant ses blonds cheveux. Mon bras passé sous son aisselle. Elle contre moi, moi tout contre elle. J'ai des fourmis un peu partout, mais je ne bouge pas du tout, du tout. Son petit nez fait de la musique. Une musique très sympathique. Pas des ronflements de dragon, des petites plaintes, des petits un-un. Moi qui avais le sommeil si lourd, je n'en dors plus la nuit, le jour. Pour un comme moi, c'est trop d'amour, ça pourrait me jouer des tours. Il faudrait bien que ça me passe, et qu'avant elle, je me lasse de notre amour. Oui, mais voilà sûrement déjà, je suis chocolat. Dans ses rêves, elle murmure, je t'aime. Mais elle ajoute, mon bel Étienne. Je suis pas très beau, je m'appelle François, ça me fait tout drôle à chaque fois. Oui, mais le lendemain, je n'ose lui parler de l'horrible chose. Elle m'embrasse si gentiment, j'ai l'impression d'être sa maman. Qu'elle me quitte ou qu'elle demeure, je ne pourrai plus dormir une heure, tellement elle a comblé mon cœur de bonheur et de malheur.
Pénétrons à présent dans l'univers fantastique du Horla de Maupassant. Le narrateur, rédigeant son journal, fait l'expérience surnaturelle d'une présence invisible dans sa propre maison. Une forme surnaturelle qui se fait de plus en plus oppressante et qui conduit peu à peu le narrateur vers la folie. Ne pas pouvoir expliquer ce souffle désincarné, les pages du livre qui se tournent toutes seules, ou encore une carafe d'eau qui se vide la nuit, autant d'angoisses et de mystères qui torturent les nuits de notre narrateur. Après ce récit, surveillez bien le volume de votre bouteille avant de vous endormir, on ne sait jamais. C'est un conseil avisé. Mais chut, pas trop fort, les yeux ont des oreilles.
5 juillet. Ai-je perdu la raison? Ce qui s'est passé, ce que j'ai vu la nuit dernière est tellement étrange que ma tête s'égare quand j'y songe. Comme je le fais maintenant chaque soir, j'avais fermé ma porte à clé. Puis, ayant soif, je bus un demi-verre d'eau, et je remarquai par hasard que ma carafe était pleine jusqu'au bouchon de cristal. Je me couchai ensuite, et je tombai dans un de mes sommeils épouvantables, dont je fus tiré au bout de 2 heures environ par une secousse plus affreuse encore. Figurez-vous un homme qui dort, qu'on assassine, et qui se réveille avec un couteau dans le poumon, et qui râle couvert de sang, et qui ne peut plus respirer, et qui va mourir, et qui ne comprend pas. Voilà. Ayant enfin reconquis ma raison, j'eus soif de nouveau. J'allumai une bougie et j'allai vers la table où était posée ma carafe. Je la soulevai en la penchant sur mon verre. Rien ne coula. Elle était vide. Elle était vide complètement. D'abord je n'y compris rien, puis tout à coup je ressentis une émotion si terrible que je dus m'asseoir, ou plutôt que je tombai sur une chaise. Puis je me redressai d'un saut pour regarder autour de moi, puis je me rassis, éperdu d'étonnement et de peur, devant le cristal transparent. Je le contemplai avec des yeux fixes, cherchant à deviner. Mes mains tremblaient. On avait donc bu cette eau. Qui ? Moi ? Moi, sans doute ! Ça ne pouvait être que moi. Alors j'étais somnambule. Je vivais sans le savoir de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a 2 êtres en nous, ou si un être étranger, inconnaissable et invisible anime par moments, quand notre âme est engourdie, notre corps captif qui obéit à cet autre comme à nous-mêmes, plus qu'à nous-mêmes. Ah, qui comprendra mon angoisse abominable? Qui comprendra l'émotion d'un homme sain d'esprit, bien éveillé, plein de raison, et qui regarde épouvanté, à travers le verre d'une carafe, un peu d'eau disparue pendant qu'il a dormi. Et je restai là jusqu'au jour, sans oser regagner mon lit. 6 juillet. Je deviens fou. On a encore bu toute ma carafe cette nuit. Ou plutôt, je l'ai bu. Mais est-ce moi? Est-ce moi? À qui serait-ce? Qui? Oh mon Dieu, je deviens fou. Qui me sauvera? 10 juillet. Je viens de faire des épreuves surprenantes. Décidément, je suis fou, et pourtant. Le 6 juillet, avant de me coucher, j'ai placé sur ma table du vin, du lait, de l'eau, du pain et des fraises. On a bu, j'ai bu, toute l'eau et un peu de lait. On n'a touché ni au vin, ni au pain, ni aux fraises. Le 7 juillet, j'ai renouvelé la même épreuve qui a donné le même résultat. Le 8 juillet, j'ai supprimé l'eau et le lait. On n'a touché à rien. Le 9 juillet, enfin, j'ai remis sur ma table l'eau et le lait seulement, en ayant soin d'envelopper les carafes en des linges de mousseline blanche et de ficeler les bouchons. Puis j'ai frotté mes lèvres, ma barbe, mes mains avec de la mine de plomb, et je me suis couché. L'invincible sommeil m'a saisi, suivi bientôt de l'atroce réveil. je n'avais point remué. Mes draps eux-mêmes ne portaient pas de taches. Je m'élançai vers la table. Les linges enfermant les bouteilles étaient demeurés immaculés. Je déliai les cordons en palpitant de crainte. On avait bu toute l'eau. On avait bu tout le lait. Oh mon Dieu! Je vais partir tout à l'heure pour Paris.
Il y a l'insomnie des petits soucis, des angoisses du quotidien. Et il y a l'insomnie existentielle, celle qui survient quand rien ne peut plus distraire du vide, d'une vie vaine et sans repère. L'insomnie de l'être livré à lui-même dans un néant sans fin qui lui retourne le cœur. Sartre écrit la nausée, il exprime l'indicible quand écrire semble être la dernière solution.
Je me lève en sursaut. Si seulement je pouvais m'arrêter de penser, ça irait déjà mieux. Les pensées. C'est ce qu'il y a de plus fade encore que la chair. Ça s'étire à n'en plus finir et ça laisse un drôle de goût. Et puis il y a les mots, au-dedans des pensées, les mots inachevés, les ébauches de phrases qui reviennent tout le temps. Il faut que je finisse. Mort. Monsieur de Rolle est mort. Je ne suis pas. Ça va, ça va. Et ça ne finit jamais. C'est pis que le reste parce que je me sens responsable et complice. Par exemple, cette espèce de rumination douloureuse. J'existe. C'est moi qui l'entretiens. Moi. Le corps, sa vie tout seul, une fois que ça a commencé. Mais la pensée, c'est moi qui la continue, qui la déroule. J'existe. Je pense que j'existe. Oh, le long serpentin, ce sentiment d'exister. Et je le déroule, tout doucement. Si je pouvais m'empêcher de penser, j'essaie, je réussis. Il me semble que ma tête s'emplit de fumée, et voilà que je recommence. Fumer, ne pas penser, je ne veux pas penser, je pense que je ne veux pas penser, il ne faut pas que je pense que je ne veux pas penser, parce que c'est encore une pensée. On n'en finira donc jamais. Ma pensée, c'est moi. Voilà pourquoi je ne peux pas m'empêcher de penser. J'existe parce que je pense, et je ne peux pas m'empêcher de penser. En ce moment même, c'est affreux, si j'existe, c'est parce que j'ai horreur d'exister. C'est moi qui me tire du néant auquel j'aspire. La haine, le dégoût d'exister, ce sont autant de manières de me faire exister, de m'enfoncer dans l'existence. Les pensées naissent par derrière moi comme un vertige, je les sens naître derrière ma tête. Si je cède, elles vont venir là devant, entre mes yeux. Et je cède toujours. La pensée grossit, grossit, et la voilà, l'immense, qui me remplit tout entier et renouvelle mon existence. Ma salive est sucrée, mon corps est tiède, je me sens fade. Mon canif est sur la table, je l'ouvre. Pourquoi pas? De toute façon, ça changerait un peu. Je pose ma main gauche sur le bloc-notes et je m'envoie un bon coup de couteau dans la paume. Le geste était trop nerveux, la lame a glissé, la blessure est superficielle. Ça saigne. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a de changé? Tout de même, je regarde avec satisfaction sur la feuille blanche, en travers des lignes que j'ai tracées tout à l'heure, cette petite mare de sang qui a cessé enfin d'être moi. Quatre lignes sur une feuille blanche, une tache de sang. C'est ça qui fait un beau souvenir. Il faudra que j'écrive en dessous. Ce jour-là, j'ai renoncé à faire mon livre sur le marquis de Rolbon. Est-ce que je vais soigner ma main? J'hésite. Je regarde la petite coulée monotone du sang. Le voilà justement qui coagule. C'est fini. Ma peau a l'air rouillée autour de la coupure. Sous la peau, il ne reste qu'une petite sensation pareille aux autres, peut-être encore plus fade.
Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés, et n'hésitez pas à suivre assidûment notre émission de lecture à voix haute pour bercer vos nuits d'insomnie de nos douces voix radiophoniques. Merci à Valentin, Maë et Myriam pour leur lecture, et à Félix pour la régie.
Merci, merci Eva.
Ne manquez pas le grand direct d'anniversaire de Transistor le 6 décembre, de 18h à 21h, et à très bientôt sur nos ondes.